Alors Mathieu Vernet est maître de conférence à ce qui s'appelle maintenant Sorbonne Université. Certains l'ont connu ici puisqu'il a été pendant un certain temps mon assistant au Collège de France. Ensuite, il a été pensionnaire à la Fondation Thiers. Il a fait une thèse sur Mémoire et oubli de Baudelaire dans l'œuvre de Proust, une thèse que j'ai eu le bonheur de diriger et qui a été soutenue en 2013. Nous avons continué à travailler ensemble. Il a coédité avec Kazuyoshi Yoshikawa et moi-même le colloque que nous avions fait sur Swann à Cerisy en 2012, et il collabore à l'édition du cahier 7 des brouillons de la recherche du temps perdu dans la belle grande collection des cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale qui sont en cours de publication chez Brepols. Aujourd'hui, le titre de sa communication est édité contre Sainte-Beuve, donc ces fameux cahiers de 1908-1909 préparatoires à la recherche du temps perdu. À vous la parole.
Merci de votre présentation et de cette invitation. Pourquoi donc et comment éditer ce que l'on appelle le contre Sainte-Beuve ? Depuis une quarantaine d'années, cette question revient de manière fréquente et lancinante au gré d'articles publiés dans les différentes revues proustiennes, lors de communications, dans des séminaires ou lors de colloques. Un sondage m'a d'ailleurs appris qu'Antoine Compagnon avait déjà par deux fois et à 10 ans d'intervalle parlé de ce sujet et soulevé ce problème. Car effectivement, il y a un problème. Il y a un problème éditorial tout d'abord, problème relativement mineur d'un point de vue théorique, mais majeur d'un point de vue pratique, puisqu'il existe actuellement en français deux éditions concurrentes, publiées toutes deux chez Gallimard, chacune proposant leur propre montage de texte et surtout un matériau assez différent. On doit la première édition à Bernard de Fallois, qui a été le premier à mettre au jour ces documents inédits en les publiant sous le titre « Contre Sainte-Beuve », titre que lui-même a retenu en 1954. La deuxième édition est celle de Pierre Clarac pour la Bibliothèque de la Pléiade en 1971. Quand j'ai commencé mes études mes travaux sur Proust, il était chic de lire le Contre Sainte-Beuve en allemand dans l'édition de Lucius Keller, procurée en 1997, de la même manière qu'il a été chic à une époque pour les Allemands de lire Hegel dans sa traduction française. Les raisons sont toutefois bien différentes, puisque le texte proposé par Lucius Keller était considéré à l'époque comme la reconstitution la plus satisfaisante. D'ailleurs, les traductions récentes, en néerlandais, en espagnol et en portugais, partent de cette édition allemande et le prennent comme point d'origine. On voit donc que derrière la question éditoriale se pose une question plus centrale et plus importante, qui est celle du scénario du Contre Sainte-Beuve, c'est-à-dire la question du montage qu'il convient de faire de fragments épars, rédigés de manière indépendante et sans interconnexions évidentes. Le vrai problème est donc bien d'ordre philologique et génétique, puisque le livre Contre Sainte-Beuve en lui-même n'existe pas. C'est un projet que l'on ne parvient à dater que de manière approximative. Il est, pour prendre, disons, les choses à l'envers, assez difficile de déterminer avec précision le moment où le projet de Contre Sainte-Beuve bascule vers à la recherche du temps perdu, c'est-à-dire d'identifier le moment où s'impose le roman de la réminiscence et la mise en place du principe du temps retrouvé. Pour des raisons différentes, il est aussi compliqué de déterminer le moment où le projet prend véritablement corps. Le Contre-Sainte-Beuve n'est pas en effet le fruit d'une décision nette, mais plutôt le produit d'une recherche par Proust sur la forme à donner à ses réflexions. Les 10 cahiers qui composent traditionnellement la série dite de Sainte-Beuve, à savoir les cahiers 1 à 7, 31, 36 et 51, ont été rédigés entre novembre-décembre 1908 et juin 1909. Toutefois, en amont comme en aval, on trouve des traces soit annonciatrices, soit résiduelles du projet contre Sainte-Beuve. Ainsi, trouve-t-on égrené dans des cahiers que l'on ne retient pas habituellement comme relevant de cette série, des développements critiques ou narratifs qui s'inscrivent encore dans le projet premier et initial. Le premier enjeu consiste donc, sinon à dater précisément ce qui pourrait marquer le début et la fin du projet contre Sainte-Beuve, tout au moins à le borner. C'est ce que je voudrais discuter et repenser aujourd'hui, cette question du bornage, rediscuter ce qu'on retient traditionnellement comme étant le début, novembre-décembre 1908, et la fin, juin 1909. En ce qui concerne la datation du projet, du début du projet, on est confronté à un cas intéressant et problématique. Je le rappelle pour les non-initiés, Antoine Compagnon en a déjà parlé, la BNF a recueilli dans un volume qu'on a pris l'habitude d'appeler pour une raison que j'ignore, Proust 45, une masse importante de feuillets de formats très différents et dispersés. Donc ce volume, pour ceux qui veulent le voir sur Gallica, c'est NAF 16636. Donc ce volume, très disparate, et plus ou moins ordonné, comporte pour ses 30 premiers feuillets des pages qui appartiennent au projet du Contre Sainte-Beuve, puisqu'il est question de l'auteur des lundis dans chacun des développements. Deux de ces feuillets volants, le 14 recto et le 13 recto, soulèvent une question décisive. Comme l'avait identifié Pierre Clarac dans son édition de 71, ces feuillets contiennent pour le premier une citation très précise, mais néanmoins légèrement réécrite, de la nécrologie de Charles de Spellberg de Louvenjoul, publiée par Paul Bourget dans le Figaro du 7 juillet 1907, et pour le second feuillet, une allusion moins précise à ce même article. Rares ont été les élèves de ce maître qui auraient dû en laisser beaucoup, tant sa méthode fut excellente. L'auteur des lundis définissait la critique, une botanique morale. Il voulait qu'avant de juger une œuvre, l'analyste littéraire essayât de la comprendre. La phrase originale, donc ça c'est la citation de Proust, la citation que recopie Proust, la citation originale est un tout petit peu différente. Monsieur Spellberg était l'un des rares élèves d'un maître qui aurait dû, semble-t-il, en laisser beaucoup, tant sa méthode fut excellente, Sainte-Beuve. On compte ceux qui l'ont vraiment suivi. L'auteur des lundis définissait la critique une botanique morale. Il voulait qu'avant de juger une œuvre, l'analyste littéraire essayât de la comprendre. Donc là, Proust s'arrête ici, la phrase continue. Et d'abord de la situer, de noter avec soin le détail des moindres circonstances où elle s'est produite. Le deuxième folio est celui-ci, donc le folio 13. Une telle méthode demande tant de temps, etc., dit M. Paul Bourget, qu'on s'explique comment personne que lui, etc. Sainte-Beuve lui-même s'inquiétait de voir qu'elle n'était pas toujours applicable pour les anciens, dit-il, et même pour nos contemporains, comme il craignait. Aussi reprochait-il à ceux qui auraient pu nous laisser des documents qu'ils ne nous ont pas laissés, Valincourt, à tous ceux qui ont bien connu un écrivain. Il ne fait pas de doute que Proust a eu cet article sous les yeux, ne serait-ce que par les renvois qui ici sont donnés sur cette deuxième citation. Mais, sauf à faire l'hypothèse que Proust avait appris par cœur ce passage de cette nécrologie, comment expliquer que cette citation se retrouve dans ces deux notes de Proust ? On est en présence de deux hypothèses également vraisemblables, mais convergentes à mes yeux pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. La première hypothèse est celle de Lucius Keller, l'éditeur allemand donc, qui pour sa part suggère que Proust a découpé l'article pour le conserver, je cite, « dans le tiroir d'une commode, en vue de l'ouverture qu'il savait prochaine d'un dossier Sainte-Beuve ». C'est une hypothèse qui est recevable, à condition de préciser toutefois que l'on n'a évidemment aucune trace de ce découpage. Françoise Le Riche, quant à elle, suggère de manière audacieuse que Proust a recopié ces lignes dès le mois de juillet 1907. Cette datation est loin d'être sans incidence, car ces deux feuillets sur lesquels sont recopiés sont notées ces notes appartiennent à une liasse de 10 doubles feuilles, dont certaines ont été désolidarisées, mais peu importe. Nous sommes donc là face à une nouvelle double hypothèse qu'expose François Le Riche. Ou bien Proust a recopié ses citations en 1907 sur sa liasse et a rangé sa liasse dans un tiroir ou ailleurs en vue d'un travail ultérieur et qui donc reprendrait à la fin de l'année 1908, ou bien Proust a rédigé une bonne partie des premiers fragments concernant la méthode de Sainte-Beuve dès le début de l'été 1907. Un petit indice permet peut-être d'accréditer cette hypothèse. Sur la deuxième citation que nous avons là, ici, juste au début, pour les anciens, dit-il, donc on a le début d'une citation de Sainte-Beuve. Cette citation renvoie à un article sur Chateaubriand dont Antoine Compagnon a parlé la semaine dernière, que Proust a lu à l'occasion de lu ou relu à l'occasion de la rédaction de la préface de Sésame et les Lys. Or, ce texte ne réapparaît pas dans la campagne de lecture qui commence clairement en 1908 et se produit au début de l'été 1909. En somme, même si ce premier point d'accroche ne nous permet pas d'arriver à une hypothèse définitive, elle nous permet néanmoins d'établir une conclusion importante. En juillet 1907, Proust, d'une façon ou d'une autre, sait qu'il va écrire un article, une étude, un essai, un roman. Nul ne le sait, pas même lui, mais il va écrire quelque chose sur Sainte-Beuve. 1907 s'impose donc comme une date importante, charnière, de ce projet. On sait en outre qu'au cours des années 1907 et 1908, Proust se remet à l'écriture et produit quelques textes importants comme « Sentiments filiaux d'un parricide »,« Journée de lecture » sur les mémoires de Madame de Boigne, dont parlait Antoine Compagnon tout à l'heure, ou bien encore la série de pastiches sur l'affaire Lemoine au début de 1908. Proust, on le sait, a toujours pratiqué le pastiche. C'est une activité permanente que l'on retrouve tout au long de sa vie. La première trace que l'on ait est de 1888, lorsqu'il a 17 ans, donc il fait un pastiche de Jules Lemaître destiné à la revue Lila. En 1919, comme on a pu le voir il y a quelques semaines avec Christophe Prado, Proust met un soin particulier à republier ses pastiches dans un volume à la composition complexe, intitulé « Pastiches et mélanges », au moment même où sort « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » et où est republié chez Gallimard le premier tome de la recherche du côté de chez Swann. En mai 1922, on a encore une trace de cette activité dans une lettre à Paul Soudet où Proust pastiche précisément le destinataire du courrier. C'est donc une activité permanente pour lui. Néanmoins, les années 1908-1909 sont des années particulières pour le pastiche, puisque ce sont celles les années des pastiches de l'affaire Lemoine, qui marquent un moment important, particulier, et surtout parfaitement concomitant du moment contre Sainte-Beuve. Ces deux projets sont d'ailleurs proches, très proches dans l'esprit de Proust. Comme toujours chez lui, le contexte immédiat est important. Je rappelle qu'en décembre 1907, Rebout et Müller publient la première édition du recueil « À la manière d'eux » qui est appelée à connaître le succès qu'on lui connaît. Le 10 janvier 1908, Éclate dans la presse l'affaire Lemoine et le 24 janvier, l'escroquerie devient une évidence pour tout le monde. Proust réagit très vite et donne au Figaro 4 pastiches le 22 février, les pastiches de Balzac, Faguet, Michelet et Goncourt, puis 2 autres le 24 mars, Sainte-Beuve et Baudelaire, et enfin un dernier sur Renan le 21 mars. Balzac, Faguet, Sainte-Beuve, Flaubert sont autant d'auteurs qui vont se trouver pris d'une manière ou d'une autre dans le projet contre Sainte-Beuve. On songe à une lettre bien connue à Robert Dreyfus de mars 1908, juste avant donc la publication du texte de Renan que j'évoquais tout à l'heure. Je cite Proust, « Quant au pastiche, Dieu merci, il n'y en a plus qu'un. C'était par paresse de faire de la critique littéraire en action. Mais cela va peut-être au contraire m'y forcer pour les expliquer à ceux qui ne les comprennent pas. » C'est ce qu'il redira 12 ans plus tard à Ramon Fernandez au moment de la publication des Pastiches et Mélanges en 1919. Voici la lettre, un extrait de la lettre à Fernandez. « Vous m'avez deviné par votre critique en acte, car j'avais d'abord voulu faire paraître ces pastiches avec des études critiques parallèles sur les mêmes écrivains, les études annonçant d'une façon analytique ce que les pastiches figuraient instinctivement et vice-versa, sans donner la priorité ni à l'intelligence qui explique, ni à l'instinct qui reproduit. » Cette dernière phrase et ces deux derniers mots, intelligence et instinct, entrent en résonance avec les premiers mots les premiers mots des premiers écrits du Contre Sainte-Beuve, premier mot bien connu, « Chaque jour, j'attache moins de prix à l'intelligence », et surtout entre en résonance avec la conclusion de ce développement, donc qui se trouve au folio 6 de ce qu'on appelle le Proust 45. Je le lis donc, « La méthode de Sainte-Beuve n'est peut-être pas, au premier abord, objet si important, mais peut-être sera-t-on amené, au cours de ces pages, à voir qu'elle touche à de très importants problèmes intellectuels, peut-être au plus grand de tous pour un artiste, à cette infériorité de l'intelligence dont je parlais au commencement. Et cette infériorité de l'intelligence, c'est tout de même à l'intelligence qu'il faut demander de l'établir. Car si l'intelligence ne mérite pas la couronne suprême, c'est elle seule qui est capable de la décerner. Et si elle n'a dans la hiérarchie des vertus que la seconde place, il n'y a qu'elle qui soit capable de proclamer que l'instinct doit occuper la première. La méthode de Sainte-Beuve, l'intelligence, l'instinct et le pastiche sont mis ici sur le même pied. Le lien entre les pastiches et l'activité de Proust est d'ailleurs bien établi, si bien que Robert Vigneron datait, certes à tort, les écrits critiques des pages du Contre Sainte-Beuve de manière antérieure au pastiche. En somme, c'est un véritable entrelacs qu'il faut parvenir à se représenter et à penser pour comprendre ces mois de création en 1907-1908 et se figurer comment Proust travaillait à trouver sa propre voie. On sait d'ailleurs combien il s'est posé la question de la forme qu'il devait donner à ce qu'il projetait d'écrire. Je cite une note du carnet 1, « La paresse ou le doute ou l'impuissance se réfugiant dans l'incertitude » sur la forme d'art. Un passage de l'un des tout premiers cahiers de la série Sainte-Beuve est assez saisissant. Le début est très célèbre, la suite l'est moins, alors même qu'elle est troublante à bien des égards. Ce passage est noté comme à la va-vite dans le cahier 2. Il arrive à un point de jonction. Alors, Proust écrit souvent à l'endroit et à l'envers de ses cahiers, et dans le cahier 2, cette note arrive au moment où l'endroit et l'envers se rencontrent. Donc il arrive à la fin ou au début, comme vous voulez. Ces pages sont comprimées, compressées. Tant et si bien, c'est un passage un peu étrange où l'on se demande qui parle. Le jeu que l'on trouve dans ces premiers cahiers de la série Sainte-Beuve est toujours proche du jeu autobiographique, mais il subsiste toujours un flottement qui permet de clairement distinguer ces deux mois. Or, dans cet extrait, les notes prises par Proust ont quelque chose du journal intime. Le narrateur, ou l'auteur, donc, y mène une réflexion à triple entente qui porte sur le geste critique, l'acte de lecture et celui d'écriture. Dès que je lisais un auteur, je distinguais bien vite sous les paroles l'air de la chanson qui en chaque auteur est différent de ce qu'il est chez tous les autres. Et tout en lisant, sans m'en rendre compte, je le chantonnais. Je pressais les mots ou les ralentissais ou les interrompais tout à fait, comme on fait quand on chante, où on attend souvent longtemps, selon la mesure de l'air, avant de finir la fin d'un mot. Je savais bien que si, n'ayant jamais pu travailler, je ne savais écrire, j'avais cette oreille-là plus fine et plus juste que bien d'autres, ce qui m'a permis de faire des pastiches, car chez les écrivains, quand on tient l'air, les paroles viennent bien vite. Mais ce don, je ne l'ai pas employé, et de temps en temps, à des périodes différentes de ma vie, celui-là, comme celui aussi de découvrir un lien profond entre deux idées, deux sensations, je le sens toujours vif en moi, mais pas fortifié, et qui sera bientôt affaibli et mort. Pourtant, il aura de la peine, car c'est souvent quand je suis le plus malade, que je n'ai plus d'idées dans la tête ni de force, que ce moi que je reconnais parfois aperçoit ces liens entre deux idées, comme c'est souvent à l'automne, quand il n'y a plus de fleurs ni de feuilles, qu'on sent dans les paysages les accords les plus profonds. Et ce garçon qui joue ainsi en moi sur les ruines n'a besoin d'aucune nourriture. Il se nourrit simplement du plaisir que la vue de l'idée qu'il découvre lui donne. Il la crée, elle le crée, il meurt. Mais une idée le ressuscite comme ces graines qui s'interrompent de germer dans une atmosphère trop sèche, qui sont mortes. Mais un peu d'humidité et de chaleur suffit à les ressusciter. Et je pense que le garçon qui en moi s'amuse à cela doit être le même que celui qui a aussi l'oreille fine et juste pour sentir entre deux impressions, entre deux idées, une harmonie très fine que tous ne sentent pas. Qu'est-ce que c'est que cet être-là ? Je n'en sais rien. Le critique, le lecteur, l'écrivain semblent ici tous trois se mêler et sont capables, chacun à leur manière, de développer une intelligence du rapport, d'établir un lien ou de poser une métaphore pour reprendre l'image développée par le narrateur du temps retrouvé. Toujours est-il qu'une chose revient dans ses lignes et qui maintient ensemble la critique, la lecture et l'écriture, c'est bien la mémoire, même si Proust n'utilise pas encore le mot. Proust rédige donc 5 pastiches dans le carnet 1 et les cahiers 3 et 2. En d'autres termes, s'il y a de fait une superposition entre la période des pastiches et celle de la rédaction des premiers cahiers Sainte-Beuve, celle-ci ne semble pas être le simple fait du hasard. Il y a bien un élan commun, une manière originale de tenir un propos sur un écrivain et le souci non seulement de corriger des erreurs d'appréciation que Sainte-Beuve avait pu porter sur ses contemporains, mais aussi, et ce n'est pas négligeable, la mise en œuvre d'une nouvelle pratique de critique littéraire, clairement distincte par son ambition et par ses méthodes de la méthode de Sainte-Beuve. Faire un pastiche, c'est donc doublement se montrer contre Sainte-Beuve, c'est attaquer sa lecture et c'est attaquer sa méthode. Le troisième et dernier point rapide que je voudrais étudier sur les premiers états du contre Sainte-Beuve, après donc m'être interrogé sur l'article de Bourget et sur la question des mélanges, des pastiches, pardon, tient aux pages dont le manuscrit a disparu, mais dont on a pu conserver le texte par la transcription qu'en fit Fallois dans son édition de 1954. Antoine Compagnon l'avait rappelé, il me semble, lors du premier cours, que 75 feuillets ont disparu. Enfin, on connaît l'existence de ces 75 feuillets grâce à Bernard de Fallois et à la préface qu'il donne, et ces feuillets ne nous sont pas parvenus. On a seulement 2 textes qui probablement appartiennent à ces feuillets et que Fallois a retranscrit donc dans son édition de 1954. Proust dresse dans le carnet 1 une liste des pages écrites et dans cette énumération, on retrouve 2 des textes que j'évoque, qui sont donc intitulés « Robert et le chevreau » et « Les Hortensias normands ». Claudine Kemar a montré que ces 2 textes datent de janvier et d'avril 1908. Proust commence ainsi cette année 1908, donc non seulement par l'écriture des pastiches, mais également par des écrits narratifs qui semblent s'inscrire dans un projet de roman que Proust évoque à plusieurs reprises dans sa correspondance. Il écrit ainsi en juillet 1908 au comte de Montesquieu : « Je me débats sans avancer dans un roman qui vous donnera peut-être un peu plus d'estime pour moi. » Ces pages, ou tout au moins celles qui nous sont plus ou moins parvenues, trouvent un prolongement évident dans le projet du conte Sainte-Beuve narratif que Proust esquisse. Les hortensias normands évoquent en effet un âge des noms, les rêveries et le souffle de poésie que les noms de familles nobles provoquent dans l'esprit du narrateur. Tandis que Robert et le Chevreau décrit le désespoir du frère du narrateur au moment de quitter Combray avec leur mère. Intéressons-nous maintenant à l'autre bout, à la fin, avec une tâche qui s'avère aussi bien difficile, tant il est compliqué, comme je le disais tout à l'heure, d'apprécier le moment où Proust abandonne le conte Sainte-Beuve pour la recherche du temps perdu, tant les deux projets sont intriqués. C'est tout particulièrement le cas pour deux cahiers de brouillon, les cahiers 12 et 8, qui sont des cahiers de montage, que Proust utilise pour remettre en ordre ce qui a été rédigé jusqu'à présent, donc dans les cahiers du conte Sainte-Beuve, et qui passe pour être les cahiers où s'opère clairement la bascule vers le roman. Or, de toute évidence, certains éléments dans ces cahiers relèvent encore de l'ancien projet, comme par exemple les 9 premiers folios du cahier 8, qui commencent ainsi, au temps de cette matinée dont je voudrais fixer le souvenir. Ces cahiers de montage peuvent en outre reprendre des passages qui ne nous sont pas parvenus. L'écriture déliée et peu raturée de, ces pages, ne saurait invalider totalement cette hypothèse. Par ailleurs, un certain nombre de pages rédigées après juin 1909 gardent bien le souvenir du projet initial, voire le prolonge. C'est le cas, par exemple, du cahier 29 et du folio 43, des folios 43 à 45. Donc, je vous présente ici le premier, comme vous pouvez le voir en haut. Proust note à ajouter à Flaubert. Alors, c'est un titre un peu mystérieux parce qu'on ne voit pas trop ce à quoi Proust fait allusion, puisqu'il n'y a rien de développé clairement sur Flaubert dans les cahiers dont on dispose. En tous les cas, comme vous le voyez, Proust commence tout de suite par Sainte-Beuve. Sainte-Beuve, et tous depuis d'ailleurs, l'a critiqué, donc Flaubert, ou loué, mais semble-t-il, sans apercevoir ce qui faisait son immense nouveauté. Comme il a tant peiné sur sa syntaxe, c'est en elle qu'il a logé pour toujours son originalité. C'est un génie grammatical. Je saute le passage qui, le reste de l'analyse qui m'intéresse moins, pour en venir à la fin de cette note sur Flaubert. Donc je vous la lis. Nous sommes fatigués des formules symétriques, ironique et brutale, qui était bien de Flaubert, mais qui, ayant défrayé depuis toute la littérature et donné un aspect de pensée aux lettres des diplomates, genre de Pierre Mille, et un aspect d'autorité au discours des universitaires, discours de réception de Doumic à l'Académie, ce qui met en liesse les imbéciles. Ces quelques feuillets sur Flaubert datent plus ou moins du mois d'avril 1910, puisque on a ici une allusion très claire au discours de réception de René Doumic à l'Académie française. La référence initiale que je vous signalais tout à l'heure à Sainte-Beuve reste certes artificielle, mais elle lance bien ses lignes de critique. Comme Proust le signale lui-même dans sa parenthèse, il aurait fort bien pu citer n'importe quelle autre critique qui lui venait à l'esprit. Il ne fera en outre aucune référence à un texte de Sainte-Beuve, pas plus d'ailleurs qu'à sa méthode au cours de ses lignes sur Flaubert. Ce type de note très allusive et souvent incomplète est assez caractéristique de ce que Proust a pu ébaucher dans ses écrits critiques rédigés entre 1908 et 1910. On en trouve un autre exemple dans le carnet. Alors là, j'avais mis le. Mais Antoine Compagnon l'a présenté tout à l'heure, le carnet 1 qui est assez beau à voir dans sa longueur, dans toute sa longueur. On trouve un exemple analogue dans le carnet 1. Appelé traditionnellement le carnet de 1908, carnet donc dans lequel le projet du Contre Sainte-Beuve est en germe. On y trouve un développement sur Musset, perdu un peu au milieu, là, ici, vous voyez que j'ai découpé pour mettre là. Donc à propos de Musset, on sent dans sa vie, dans ses lettres, comme dans un minéral où elle est à peine reconnaissable, quelques linéaments de son œuvre, qui est la seule raison d'être de sa vie, ses amours qui n'existent que dans la mesure où ils en sont les matériaux qui tendent vers elle et ne resteront qu'en elle. Ces pages, là aussi, sont faciles à dater dans la mesure où la correspondance de Musset avec Aimé Dalton paraît tous les jours dans le Figaro, entre le 13 et le 20 janvier 1910, sous le titre « Les lettres de Musset à l'inconnu ». On le voit donc, des écrits critiques donc, qui datent de janvier ou d'avril 1910, bien après le juin 1909 traditionnellement retenu. Revenons enfin au cahier 29, où se trouvaient consignées tout à l'heure les notes sur Flaubert. Proust y rédige également, sur 4 folios, un développement qu'il intitule sobrement « Romain Rolland », mais qu'il aurait aussi fort bien pu appeler, et peut-être plus justement, contre Romain Rolland. Ces lignes permettent à Proust de dessiner en creux ce qu'est un écrivain. Elles ont une dimension programmatique, une manière d'idéal vers lequel l'écrivain doit tendre et aspirer. Proust n'y aborde pas dans ses pages tout de suite la question et l'œuvre de Romain Rolland, mais renouant avec la problématique beuvienne, il amplifie les réactions sur la réalité intérieure déjà évoquées dans les précédents cahiers Sainte-Beuve. La première moitié du texte est une reprise du credo esthétique de Proust, sans aucune mention de l'auteur de Jean-Christophe. Proust reprend la distinction entre écrivain solitude et écrivain société, non pour condamner cette fois la mondanité de Sainte-Beuve, mais pour dénoncer les moyens médiocres des auteurs engagés à la manière de Romain Rolland. En d'autres termes, pour Proust, la fin ne justifie pas les moyens. Or, quand nous verrons un écrivain, à chaque page, donc c'est un extrait du texte sur Romain Rolland, or, quand nous verrons un écrivain à chaque page, à chaque situation où se trouve son personnage, ne jamais l'approfondir, ne pas le repenser sur lui-même, mais se servir des expressions toutes faites que ce qui nous en vient des autres et des plus mauvais autres nous suggère quand nous voulons parler d'une chose, si nous ne descendons pas dans ce calme profond où la pensée choisit les mots, où elle se reflètera tout entière, un écrivain qui ne voit pas sa propre pensée, alors invisible à lui, mais se contente de la grossière apparence qui la masque à chacun de nous, à tout moment de notre vie, dont le vulgaire se contente dans une perpétuelle ignorance et que l'écrivain écarte, cherchant à voir ce qu'il y a au fond, quand, par le choix, ou plutôt l'absence absolue de choix de ses mots, de ses phrases, la banalité rebattue de toutes ces images, l'absence d'approfondissement d'aucune situation, nous sentirons qu'un tel livre, même si à chaque page il flétrit l'art maniéré, l'art immoral, l'art matérialiste, est lui bien plus matérialiste, car il ne descend même pas dans la région spirituelle d'où sont sorties des pages, ne faisant que décrire des choses matérielles peut-être, mais avec ce talent qui est la preuve indéniable qu'elles viennent de l'esprit. Il aura beau nous dire que l'art n'est pas de l'art populaire, mais de l'art pour quelques-uns, nous penserons, nous, que c'est le sien qui est cet art-là, car il n'y a qu'une manière d'écrire pour tous, c'est d'écrire sans penser à personne, pour ce qu'on a en soi d'essentiel et de profond. Romain Rolland, dans ces quelques pages, semble prendre le relais de Sainte-Beuve. Proust le dit nettement dans une note marginale notée sur le verso de ce cahier en regard des pages et de l'extrait que je viens de vous lire. Ce qu'il reproche à Romain Rolland, je cite, « est bien plus gros que ce que je reproche à Sainte-Beuve. C'est une critique matérielle de mots qui font plaisir aux lèvres, aux coins de la bouche, aux sourcils remontés, aux épaules et aux contreforts desquels l'esprit n'a pas le courage de remonter pour voir ce qu'il y a. Mais dans Sainte-Beuve, malgré tout, beaucoup plus d'art prouve beaucoup plus de pensée. » Ces pages, comme l'a signalé Enid Marantz, sont importantes dans la pensée critique et esthétiques de Proust et s'inscrivent dans le prolongement de celles sur Sainte-Beuve, dont elles sont la suite. D'ailleurs, on retrouve un fil rouge entre les premiers écrits sur Sainte-Beuve, dans le fameux Proust 45, dans le cahier 2, cahier intermédiaire, et dans ce cahier 29 sur lequel nous travaillons, avec la figure de Wenceslas Steinbock, personnage de la comédie humaine, personnage même central de La Cousine Bête, et qui représente l'artiste improductif. Ce personnage, Steinbock, apparaît donc en juillet 1907, si on suit l'hypothèse séduisante de Françoise Le Riche, ou fin 1908, donc dans le cahier, dans le Proust 45, puis revient dans le cahier 2 en juin 1909, dans le cahier 1, pardon. Là, j'ai noté cahier 2, mais ici, c'est cahier 1. Donc, dans le cahier 1, sur un long développement que Proust fait sur Sainte-Beuve et Balzac. Et enfin, reviendra début 1910, dans le cahier 29. Ce qui est amusant, c'est que Balzac avait fait lui-même le rapprochement entre la figure de Steinbock et Sainte-Beuve, ce qui n'avait pas manqué d'agacer Sainte-Beuve. Je cite un passage de La Cousine Bête. « Redevenu artiste in partibus, Steinbock avait beaucoup de succès dans les salons. Il était consulté par beaucoup d'amateurs. Il passa critique, comme tous les impuissants qui mentent à leur début. » Steinbock incarne cette figure de l'artiste intermittent qui n'est pas en permanence dans le processus de création, qui ne vit pas, pour citer Balzac, en concubinage avec la muse, et qui incarne l'échec de la mondanité. De Steinbock à Roland, en passant par Sainte-Beuve, Proust décompose la figure de l'artiste et le travail du critique. Avec Romain Roland s'opère un glissement par rapport à Sainte-Beuve. Ce n'est plus à un critique et à une méthode que Proust s'oppose, mais désormais à un écrivain. À la manière de Bergotte dans La recherche du temps perdu, Romain Roland apparaît dans la genèse de l'œuvre comme une première figure de ces grands artistes qui permettront au narrateur de trouver sa voie. Et c'est peut-être là aussi un point important qui marque la fin du projet contre Sainte-Beuve. Le narrateur cherche désormais à devenir un écrivain. Ces pages du cahier 29 semblent donc marquer clairement un pivot. Enfin, il est remarquable que Sainte-Beuve et Romain Roland disparaissent tous les deux quasiment totalement de La recherche du temps perdu, ou tout au moins en apparence. Je comptais vous faire spoiler la fin du cours d'Antoine Compagnon, mais il l'a fait lui-même, donc je ne spoile rien du tout, puisque je comptais annoncer qu'il parlerait un jour de Madame de Villeparisis, mais il l'a annoncé à la fin du cours. Donc, Sainte-Beuve et Romain Roland se retrouvent l'un et l'autre. S'ils disparaissent, ils se retrouvent l'un et l'autre dans des personnages de La recherche du temps perdu, à travers un processus que Genette appelait de manière un peu pompeuse, mais qui a le mérite d'être assez claire, la transvocalisation. C'est-à-dire que Madame de Villeparisis devient la porte-parole de Sainte-Beuve, tandis que Bloch et Guercy puis Charlus deviendront les porte-paroles de Romain Roland. La recherche du temps perdu va donc assimiler par la fiction une partie importante de l'essai critique primitif. Autre piste que je n'explorerai pas aujourd'hui, mais que je trouve aussi intéressante, a été là encore soulevée par Françoise Le Riche, qui souligne l'importance du projet polémiste qui se trouve au cœur du contre Sainte-Beuve. À cet égard, il semble aussi important de prendre en compte, outre le cahier 29, le cahier 14, qui date lui aussi de l'hiver 1909-1910. Une même analyse que celle que j'ai faite sur le cahier de 29 amènerait sensiblement aux mêmes conclusions. Le contre Sainte-Beuve, le projet du contre Sainte-Beuve, excède donc les limites qu'on lui attribue. Ma proposition tient ici à brasser au plus large pour saisir une même activité esthétique entre 1907 et 1910, dans lesquelles notes, cahiers de brouillon, carnets sont à mettre en parallèle des pastiches et de la correspondance. L'activité de Proust est protéiforme, car elle est précisément à la recherche d'une forme. Le continuum beuvien devient effectivement plus ténu le temps passant, mais on pourrait ainsi postuler qu'au-delà du cœur qui se trouve entre du cœur du projet qui se trouve entre la fin 1908 et le printemps 1909, le projet contre Sainte-Beuve s'élargit bien aux années 1907 et 1910, et une édition de ce projet doit précisément rendre compte de cette diversité. Une fois le corpus défini, se pose alors la difficile question de l'ordonnancement de cette masse textuelle, d'un scénario qui permette de faire tenir tout ensemble, ou presque, ces éléments. Si la question du matériau du contre Sainte-Beuve est cruciale, celle de sa mise en ordre l'est tout autant. En effet, les textes qui se trouvent réunis dans ce corpus frappent par leur disparate et leur forme très différente. On trouve des textes théoriques sur la littérature, sur la critique, des textes de critique littéraire, des fragments narratifs, des pastiches et des éléments plus proprement romanesques. Le choix des éditeurs du Contre Sainte-Beuve a toujours été jusqu'à présent de choisir, d'élaguer ce qui pouvait nuire à une cohésion narrative d'ensemble, mais aussi d'éliminer des textes pour faciliter la lecture de l'ouvrage et rendre accessible au plus grand nombre ce texte. Le montage de Bernard de Fallois est admirable à bien des égards, mais on ne peut plus faire aujourd'hui les manipulations et les montages, parfois très audacieux, pour ne pas dire plus, auxquels il s'est adonné. Depuis une quarantaine d'années, la génétique et l'étude des brouillons de Proust ont radicalement changé notre approche de ce texte, mais au-delà du seul contre Sainte-Beuve, l'impact de ces études génétiques se mesure aussi à l'évolution du regard que le lecteur et les éditeurs portent sur la nature d'une œuvre inachevée. Il me semble que le lecteur contemporain est désormais prêt à lire un livre qui se présente et s'assume comme un ouvrage partiel, incomplet ou fragmentaire. Il n'est qu'à songer, à l'édition des poèmes, alors là, pour le coup, c'est le cas de le dire, pour le moins fragmentaire de Sappho, puisque vous savez que dans un poème, on n'a parfois que deux ou trois mots sur une trentaine de lignes. Enfin là, c'est un peu un cas extrême, mais c'est le cas des écrits autobiographiques de Sartre, qui mélangent carnets, cahiers, journaux, lettres, ou bien encore des cahiers de Kafka, souvent incomplets. La difficulté dans le cas de Proust tient à faire tenir ensemble, je le disais, une diversité de matériaux, mais aussi de recomposer un projet qui a évolué dans le temps et dont la structure s'est sensiblement modifiée. Proust a sans doute commencé son projet en suivant deux pistes concurrentes. Écrire un article classique, comme Proust l'écrit à Anna de Noailles et comme Antoine Compagnon le rappelait au début de ce cours, avec des développements théoriques puis critiques, et en parallèle, le récit d'une matinée dans lequel il mettrait en scène sa mère à qui il raconterait son article contre l'auteur dès lundi. Les notes les plus anciennes donc, dont nous disposons sont recueillies dans ce volume du Proust 45 et posent un peu un problème épineux, une sorte de casse-tête sur lequel ont buté les précédents éditeurs, puisque Fallois avait décidé de couper en deux ce Proust 45 pour mettre la première moitié comme préface et l'autre moitié en plein milieu de son montage avant les développements critiques sur Balzac, Baudelaire et Nerval. Clarac et Keller, donc en 71 et en 97, optaient pour le même choix de tout mettre au début, mais tous les deux ne retenaient pas le même ordre. Donc, hormis ce casse-tête initial qui est le signe d'un début peu organisé et vraiment expérimental si on considère qu'une partie de ces textes remonte à l'été 1907, l'évolution du projet reste malgré tout assez logique et permet de défendre une construction relativement chronologique qui suive non seulement la genèse du livre, mais aussi les transformations formelles que la rédaction a induites. En effet, semblent s'être succédées dans l'esprit de Proust trois formes de contre Sainte-Beuve, un essai, un récit, puis un roman. L'unique information structurelle dont on dispose tient à la fin du tient à la fin du livre qui se terminerait sur une discussion avec maman. On a cette information dans une lettre que Proust adresse à Alfred Valette, le directeur du Mercure de France, dont je donne lecture. Que mes propositions, donc lettre qui date de la mi-août 1909, que mes propositions vous agréent ou non, je vous prie de les tenir secrètes, au moins sur un point. Vous allez voir pourquoi. Je termine un livre qui, malgré son titre provisoire, Contre Sainte-Beuve, souvenir d'une matinée, est un véritable roman, et un roman extrêmement impudique en certaines parties. Un des principaux personnages est un homosexuel, et ceci, je compte que, tout à fait à la lettre, vous m'en garderez le secret. Si la chose était sue avant le livre paru, nombre d'amis dévoués et craintifs me demanderaient d'y renoncer. De plus, je m'imagine qu'il y a dans tout cela des choses neuves, pardonnez-moi, et je ne voudrais pas être dépouillé par d'autres. Le nom de Sainte-Beuve ne vient pas par hasard. Le livre finit bien par une longue conversation sur Sainte-Beuve et sur l'esthétique, si vous voulez, comme Sylvie finit par une étude sur les chansons populaires. Et quand on aura fini le livre, on verra, je le voudrais, que tout le roman n'est que la mise en œuvre des principes d'art émis dans cette dernière partie, sorte de préface, si vous voulez, mise à la fin. Que retenir de cette lettre? Tout d'abord, le choix du titre et notamment du sous-titre, même s'il est annoncé comme provisoire, Contre Sainte-Beuve, souvenir d'une matinée, puisqu'il nous renseigne déjà sur le tournant romanesque pris par le projet de Proust. Proust, d'ailleurs, ne manque pas d'insister à ce sujet. La question du genre semble s'être résolue d'elle-même en cours de rédaction. On retient par ailleurs la manière dont se termine le livre et enfin l'importance du personnage de Guercy, qui deviendra dans La recherche du temps perdu le baron de Charlus, et dont la place n'est pas encore clairement fixée dans les cahiers de brouillon. Au terme donc de ce cheminement, je pourrais à mon tour tenter de proposer un déroulement qui permettrait de composer et d'ordonner l'ensemble de ces fragments pour rendre compte de l'évolution du projet en ne masquant pas pour autant les incohérences auxquelles Proust finit par aboutir. En premier, je proposerai de commencer par un essai critique qui ferait fonction de préface à partir des notes du Proust 45 et des notes sur l'intelligence. Viendrait après un essai narratif qui reposerait sur une double attente, celle de l'arrivée du rayon de soleil marquant le jour naissant, puis l'attente de l'article appelé à paraître dans le Figaro. L'essai commence ainsi par un huis clos autour de la mère et de la servante dans les cahiers 3, 2, 5 et 1. Ces développements forment l'ébauche du prologue à la matinée de la conversation et la mise en place des phénomènes de remémoration. Cette partie se terminerait avec la conversation avec maman à propos de Balzac, comme une manière de conclusion de cette partie narrative. La troisième partie développerait des éléments romanesques. Cette partie romanesque est sans doute consécutive à la lecture de Sylvie de Nerval, dans lequel Proust trouve une composition pour l'ouverture de son roman. La lecture de Nerval marque une rupture importante dans la construction du projet. Nous n'avons pas de traces de cette lecture, mais elle est probablement tardive et précéderait sensiblement les notes prises dans le carnet 1. L'ouverture romanesque que rend possible cette révélation nervalienne semble effective à partir du cahier 4, où le récit de la matinée se trouve remplacé par un roman de la réminiscence, du souvenir et de la rétrospection. Bernard Brun date cette inflexion entre les mois de mars et juin 1909, Proust mettant alors en place les grandes directions de son roman. Sylvie de Nerval permet aussi à Proust de prendre la mesure de l'importance du monde intermittent entre sommeil et demi-veille, propice au surgissement des souvenirs. Enfin, il permet l'invention du dispositif d'une matinée qui rend possible la distinction héros et narrateur, et permet de restructurer les différents plans du souvenir. C'est le narrateur qui se souvient du dormeur éveillé et le dormeur éveillé qui se souvient du héros. C'est le début de Sylvie, c'est le début du Contre Sainte-Beuve. Cette inflexion du récit de la matinée vers un roman de la mémoire est tout à fait perceptible dans le cahier 4 et s'accompagne ainsi d'une ouverture du huis clos dont je parlais tout à l'heure, une ouverture vers le monde D'un côté, l'ouverture vers le monde de Combray, et de l'autre, l'ouverture vers le monde de Swann. Quatrièmement, Guercy et les développements sur la race des tantes, mais aussi l'évocation de la soirée chez la princesse de Guermantes qui amorce une réflexion sur le vieillissement et rend possible une nouvelle fin. La difficulté à placer ces pages sur Guercy tient précisément au fait qu'elles sont d'une part marginales par rapport au développement romanesque de l'époque, mais aussi au fait que la race des tantes ne trouve pas vraiment sa place. Proust, d'ailleurs, sera toujours embarrassé par l'insertion de ce développement dans son propre roman. Et enfin, par le fait qu'elles font signe vers une fin différente, davantage empreinte du temps qui passe, et marquée par le vieillissement. On le voit, ces pages sur Guercy, la race des tantes et la soirée chez la princesse de Guermantes, marque donc une inflexion, annonce une nouvelle fin, et la conclusion proprement beuvienne que Proust évoquait tout à l'heure, enfin que Proust évoque et que nous avons vu tout à l'heure avec Calmette, ne verra pas le jour puisque le temps retrouvé dont Proust a l'idée en 1910 prendra sa place. Dans un cinquième temps, je proposerai une deuxième conclusion, celle qui était prévue initialement par Proust. Ce serait tout simplement de revenir sur la méthode de Sainte-Beuve, et enfin, dans un dernier temps, regrouper les écrits critiques et les pastiches rédigés dans les cahiers Sainte-Beuve, qui sont le prolongement de la réflexion critique sur l'auteur de lundi. On voit les difficultés, les apories et les impasses dans lesquelles nous ont conduit la réflexion sur l'unité, la cohérence et l'existence même du contre-Sainte-Beuve. On pourrait légitimement m'objecter que cette réflexion reste rhétorique, spéculative, qu'elle vient s'ajouter au discours déjà solidement mûri par Bernard de Fallois, Pierre Clarac, Claudine Kémar, Bernard Brun, Anthony Pioux, Francine Goujon, Lucius Keller ou encore Françoise Le Riche, et que penser un scénario pour un contre-Sainte-Beuve reste une gageure ou une chimère pour rester dans les sphères nervaliennes. À cela, je pourrais répondre que s'il existe bien déjà des éditions plus ou moins satisfaisantes de ce projet, on ne saurait se satisfaire éternellement de connaissances, d'une bibliographie et d'un apparat critique vieux de 50 ou 70 ans. Et qu'il est important de profiter des évolutions éditoriales récentes pour imaginer un texte moins finalisé que ceux que l'on connaît, mais plus proche du processus de création. Un texte à même de rendre compte, non pas de la naissance de la recherche du temps perdu, mais de la recherche formelle sur laquelle Proust a incessamment travaillé dans les années 1907 et 1910, et sur laquelle le contre Sainte-Beuve offre un remarquable point d'observation. Si Genette résumait à la recherche du temps perdu par « Comment Marcel devient écrivain », on pourrait résumer le contre Sainte-Beuve par « Comment Marcel comprend qu'il va devenir écrivain. » Je vous remercie.
Publier ce contre Sainte-Beuve. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et il y a plusieurs projets qui se recouvrent. Bien difficile, hein, de donner quelque chose tout de même de lisible. Vous avez bien compris, hein, on ne sait pas exactement à quel moment Proust commence à prendre des notes qu'on peut considérer comme un retour à un récit à travers Sainte-Beuve. Et puis vous avez montré que la réflexion se prolonge au-delà d'un moment où Proust prend déjà clairement des notes pour Combray et pour Balbec et pour le reste. bien difficile de trouver une organisation qui ne soit pas qui ne force pas les choses comme l'avaient fait les deux éditions précédentes en français que nous connaissons. Et en plus, on ne dispose plus des textes dont Bernard de Fagloire disposait.
Mais ce qui est assez surprenant, c'est que en suivant le fil chronologique de la rédaction, on arrive à une forme assez cohérente et relativement lisible. En réalité, le montage n'est pas si nécessaire que ça, dans la mesure où, comme c'est une pensée qui est aussi en train de se faire, l'enchaînement logique de l'écriture se suit assez bien. Les choses se complexifient avec l'arrivée de Guercy sur la fin. Mais je dirais que l'essai critique, l'essai narratif et les développements romanesques, qui en fait le choix qu'avait retenu Lucius Keller en 97, s'enchaînent.
Mais là, vous avez quand même choisi de mettre au tout début,
oui,
comme une sorte d'anticipation critique.
Oui. Oui.
C'est pas forcer un peu les choses ?
Proust, c'est peut-être. Proust dit qu'il veut commencer par ses notes sur l'intelligence.
Oui.
Elles n'ont pas le degré de. Si on prend en compte les notes sur l'intelligence, elles n'ont pas le degré de réflexion théorique que peuvent avoir les notes les pages écrites sur la méthode Sainte-Beuve. Et me semble moins critique que ne l'est ce que je place à la fin. Les notes sur l'intelligence sont une manière d'introduire l'essai narratif. Reste assez peu théorique, en fin de compte.
Oui, oui, mais elle pourrait aussi bien servir d'introduction
à la fin.
À la partie critique.
Oui.
C'est là où on peut avoir l'idée que c'est un petit peu forcer les choses.
Oui. Oui.
Enfin, je joue l'avocat du diable.
Oui, oui, oui. Mais de toutes les manières, le fait de commencer par ça, c'est ce que je vous disais, hein, tient au fait que Proust insiste à deux moments en disant il faut commencer par les notes sur l'intelligence. Alors, évidemment, le projet évolue par la suite. Donc, ces pages ne se seraient pas retrouvées sans doute là si Proust avait continué, mais elles semblent malgré tout correspondre. Si on essaye de tenir le plus possible la logique chronologique et génétique, c'est malgré tout les premières pages qui ont été écrites.
Alors, vous dites le lecteur du XXIe siècle est davantage prêt à une lecture fragmentaire.
Oui. Alors, je ne sais pas s'il est prêt, mais en tous les cas, c'est ce qu'on lui impose.
Comment ?
C'est ce qu'on lui impose.
Oui. Le lecteur du XXIe siècle, vous pensez qu'il aime bien Oui. Je ne sais pas. Je pense qu'on continue de bien aimer le Contre Sainte-Beuve de Bernard de Fallois parce que il est
efficace.
Comment ?
Efficace.
Il est efficace. On le lit. Il est cohérent.
Oui.
Et le Contre Sainte-Beuve de Clarac est cohérent aussi, puisqu'il a mis de côté tout ce qui l'embêtait et qu'il n'a gardé que les textes critiques.
Oui. Hein ? Oui, mais j'ai quand même l'impression que...
Est-ce qu'on peut faire mieux ?
À condition d'accompagner le lecteur, oui. Si on l'accompagne par...
ce qui avait été un peu fait, ce qui avait été le cas dans la Pléiade de la recherche, dans la publication des esquisses, avec des chapeaux introducteurs qui essayent de conduire, enfin, d'essayer de limiter la fragmentation de la lecture.
Oui.
On a un accompagnement qui, en essayant d'être le moins intrusif possible, permet de...
Moi, j'aime pas trop être accompagné. Je dis toujours, j'aime pas les modes d'emploi. J'aime bien utiliser les appareils sans mode d'emploi. Et les livres, c'est pareil. J'aime bien avoir... d'être en contact avec, avec le texte, avec la matière. Oui. Qu'on me dise pas comment je dois... Comment je dois lire. Enfin, là aussi, je joue l'avocat du diable, puisque dans cette pléiade de Proust à laquelle j'ai participé, j'ai fait des esquisses avec des guidanes. Quoi. J'aime pas trop faire des guidanes. Quoi. Des petits chapeaux sur les esquisses qui disent comment il faut lire, comment il faut comprendre. Mais... Comme je dis toujours, moi je déteste lire les préfaces avant de lire les livres. Je déteste lire les chapeaux avant de lire. Alors, oui. Comment allons-nous, allez-vous me convaincre qu'il faut tous ces chapeaux ?
Il faut le moins de chapeaux possible, déjà. Ah. Limitons les chapeaux. Et puis... Comme vous le dites, la préface a quand même, vous dites que vous n'aimez pas lire les préfaces, mais la préface a toujours une finalité un peu interprétative. Elle se donne comme une lecture de l'œuvre. C'est justement l'écueil que doit éviter le chapeau, qui doit ressembler plus à une trame, à quelque chose de factuel.
Donc il faut viser sans doute le scénario qui permettent que les chapeaux, les poteaux indicateurs qu'on donne au lecteur soient les plus réduits possibles.
Oui, mais comme je vous disais, les choses s'enchaînent quand même aussi assez bien, parce que dans l'esprit de Proust, même s'il écrit de manière très fragmentée et fragmentaire, il y a quand même une suite assez logique. Ça se lit, à mon avis, beaucoup mieux que ne se liraient les cahiers de brouillon de la recherche du temps perdu. Je pense que les chemins de fer sont... Enfin, les chapeaux sont, à mon avis, plus nécessaires dans le cas des esquisses de la Pléiade de 88.
Oui, 87, 89.
Que dans le cas du Contre Sainte-Beuve, où, malgré tout, c'est aussi une écriture plus allusive qui aussi nécessite nécessairement moins de la part du lecteur une attention suivie sur le déroulement de ce qui se passe. C'est la trame romanesque est quand même assez lâche. Donc, je pense que ces poteaux indicateurs sont possiblement... On peut les réduire à...
On peut les réduire le plus possible, minimaux.
Oui, c'est ce qu'il faut minimo. Faire.
Il y a à peu près, ça lui a peut-être, je ne sais plus, moi, 20-25 ans, j'avais proposé simplement de donner les cahiers tels qu'ils étaient, oui. Dans la chronologie des cahiers.
Oui, alors là, pour le coup,
là, c'est pour raide. Le coup, c'est illisible.
Oui, c'est raide. c'est raide à la lecture. C'est raide. C'est très raide. C'est très raide. Surtout que les cahiers ont été écrits, malgré tout, pas de manière suivie. Donc, il y a des passages qui... Enfin, Proust passant d'un cahier à l'autre, il y a parfois des passages qui se suivent d'un cahier à l'autre. Et donc, en respectant trop... rigoureusement les cahiers, l'ordre des cahiers, on ne suit pas forcément l'ordre de l'écriture.
Non.
Donc, on risquait d'embrouiller plus le lecteur qu'autre chose.
Oui, enfin, je crois que j'avais un peu modéré quand même. Ce n'était pas aussi raide que ça.
Mais cette présentation avait le mérite de publier les pastiches, donc, qui étaient inédits à l'époque, et qui me semble important d'être associé au projet du Contre Sainte-Beuve, parce qu'ils font partie de cette réflexion globale de recherche de la forme.
Donc les pastiches seraient non plus un appendice des pastiches,
mais
fondus dans les...
En tous les cas, il y a des pastiches qui sont dans les cahiers.
Dans ces pastiches qui sont dans les cahiers. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Et qui ne sont pas, alors qu'ils ont été pour certains rédigés au même moment, qui ne sont pas sur l'affaire Lemoine.
Alors, vous pensez que c'est légitime de faire une édition du Contre Sainte-Beuve ?
Ça se défend.
Comment ?
Ça se défend.
Ça peut être mieux que celle dont nous disent que les trois que vous nous avez proposés. On peut faire mieux.
Mais de toutes les manières, comme je le disais en conclusion, il me semble que ces textes, malgré tout, ont besoin d'être rafraîchis d'un point de vue, ne serait-ce que par la notation, la présentation. Et du moment qu'on remet le nez là-dedans, on peut pas repartir du texte. Le texte de Fallois, vous avez raison de le dire, il est remarquable, il est lisible, mais c'est un texte qui n'est pas acceptable. C'était pas le lieu, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel point Fallois peut prendre un début de phrase dans un cahier et finir la phrase avec un autre morceau pris dans un autre cahier. C'est vraiment de la réécriture.
Il y a des moments, oui, de réécriture.
Oui, remarquable, mais malgré tout, on ne peut pas se dire comme ça décemment, je republie le texte et j'annote ce texte-là qui n'est pas satisfaisant. Donc, soit alors on garde ce texte de 1954 éternellement et celui de Clarac qui n'est pas non plus très satisfaisant. Mais si on remet le nez dedans, il faut faire bouger.
Bien, écoutez, merci de ce travail de Sisyphe qui s'annonce. Et à la semaine prochaine.